RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors si vous avez une question de jardinage, vous venez la poser directement au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. C'est parti. Et notre jardinier du jour, c'est vous, Arnaud Vance. Bonjour Arnaud.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, on est heureux de vous accueillir et merci à l'équipe de Priva qui vous accueille en studio. Vous êtes jardinier et formateur en agroécologie à Terre et Humanisme. Comment va votre jardin Arnaud ?
Eh ben, il va plutôt bien. C'est le voilà, la saison redémarre tôt cette année, comme les années précédentes. Hein. On a eu un hiver doux qui continue à être doux. Donc là, on est en train de terminer la taille de la vigne, la taille des fruitiers. Dès lundi, on va faire aussi une couche chaude. Donc on va préparer un compost assez spécifique qui va nous permettre de démarrer nos semis en pépinière très tôt. Voilà, pour avoir une chauffe naturelle. Et puis on a commencé déjà voilà à semer, à repiquer sous abri, sous tunnel. Des choux, des salades, des navets, des épinards. Donc voilà, ça redémarre
doucement. Ouais. Et ça, voilà. C'est super d'entendre ça avec un climat particulier en ce moment.
Eh ben oui, on est sur un hiver, en tout cas nous en Sud-Ardèche, mais je pense que c'est généralisé partout, à toute la France, assez doux. Donc on a beaucoup d'arbustes, d'arbres qui commencent déjà à bourgeonner. Et malheureusement, on va sûrement quand même avoir des gelées qui vont arriver, peut-être pas en février, mais en mois de mars, hein, il y a encore de gros risques. Donc on risque d'avoir des dégâts sur des fruitiers, bien sûr, avec des fleurs qui risquent de geler, ou avec tout simplement aussi des bourgeons qui vont geler. Donc ça, voilà, c'est une année encore particulière où voilà, un hiver doux est pas forcément un signe positif. À la fois pour la végétation, mais aussi pour potentiellement tous les insectes qui vont aussi se réveiller un petit peu plus tôt que prévu et qui vont se retrouver avec une ressource alimentaire peu présente, peu abondante, et c'est aussi compliqué pour eux.
Vous avez choisi de nous parler des haies ce matin, Arnaud. Pourquoi ?
Mais oui, tout à fait, des haies hospitalières pour le vivant, notamment justement pour les pollinisateurs, nos amis les insectes, parce qu'on est souvent habitué à avoir des haies un peu de monoculture d'un seul arbre, on peut prendre le thuya notamment, et en fait c'est pas forcément des haies qui vont être bénéfiques à long terme pour son jardin, et donc j'avais envie de parler un petit peu de différents arbres qu'on peut tout à fait planter en haies ou en bosquet, qui vont aussi avoir des floraisons étalées sur l'année, voire même en hiver, hein, comme je disais tout à l'heure, là, avec nos hivers doux, ça perturbe beaucoup les cycles du vivant, et on peut se retrouver avec tout un tas d'insectes, aussi d'oiseaux, etc., qui vont se réveiller un petit peu plus tôt que prévu, et vont avoir du mal à trouver de la nourriture en début de saison. Donc on peut aussi implanter dans son jardin tout un tas d'arbres, d'arbustes qui vont aussi avoir des floraisons, des fructifications assez tôt, voire même carrément pendant l'hiver, pour justement offrir du pollen, du nectar, tout un tas de ressources alimentaires pour la faune qui de nos jardins. Parce que avoir un jardin accueillant pour la biodiversité, c'est un jardin qui du coup sera en bonne santé en général et qui sera résilient à tout un tas de perturbations, notamment climatiques. Hein, le changement climatique, notamment avec 10 hivers doux, ça implique aussi des ravageurs qui vont être là très tôt au jardin, comme les pucerons qui seront là très très tôt au jardin et qui vont se multiplier. Donc le changement climatique, ça implique aussi plus de générations de ravageurs, et donc pour lutter contre ça, malheureusement, c'est important aussi d'accueillir la biodiversité dans son jardin pour limiter les impacts négatifs des hivers doux. Donc avoir une haie diversifiée avec tout un tas d'arbres, d'arbustes, d'herbacées qui vont fleurir comme ça de manière étalée sur l'année, c'est aussi accueillir tout un tas de coccinelles, d'insectes, d'oiseaux, de chauves-souris
qui
vont
nous
aider dans nos jardins. Oui, il y a de quoi faire effectivement.
Et si vous avez des questions justement de jardinage et puis à propos des haies, si vous avez envie d'en installer une dans votre jardin ou si vous avez tout simplement envie d'en entretenir une, venez nous appeler directement au 04 72 38 20 23 ou envoyez-nous un message à l'adresse direct@rcf.fr. Alors vous appelez ça haie hospitalière, hein, Arnaud, c'est assez original comme terme.
C'est ça, une haie hospitalière, bah voilà, une haie qui va favoriser l'accueil de la biodiversité. Donc pour avoir un jardin, on a déjà parlé de ce sujet plusieurs fois, en fait on va essayer de diversifier à tous les niveaux, hein. Donc moi j'avais envie de parler plus spécifiquement des plantes qui fleurissent en hiver. En fait il en existe tout un tas, on n'a pas forcément l'habitude de voir des floraisons hivernales, mais en fait il y a tout un tas de plantes locales, hein. On peut aussi aller chercher éventuellement des plantes qui viennent d'un petit peu plus loin, mais alors là il faut faire attention parce que on risque toujours en faisant ça d'importer des plantes qui peuvent être envahissantes pour l'environnement puis bien sûr pour son jardin, mais on a tout un tas de plantes locales qui ont des floraisons pendant l'hiver, hein. On peut en citer quelques-unes, on a notamment le noisetier, hein, noisetier qui fleurit parfois même dans certaines régions dès fin décembre, en général en janvier, donc avec des petits chatons, donc ça c'est des fleurs mâles, hein, qui sont chargées en pollen, et dès le mois de janvier, vous avez les abeilles ou tout un tas de bourdons ou autres pollinisateurs qui viennent se nourrir de ce pollen des noisetiers. On a également le jasmin d'hiver, hein, qui fait une floraison jaune étalée en général sur décembre-janvier, parfois même jusqu'à février, qui est un petit arbuste un peu couvre-sol qui est très sympa. Moi, chez moi, là, justement, je regardais un petit peu les floraisons que j'avais en ce moment. Donc, j'habite dans le nord du Gard et plutôt en climat méditerranéen, donc un climat encore plus doux que le reste de la France. Ouais. Très doux, ouais. Et en ce moment, par exemple, chez moi, j'ai le romarin qui fleurit encore, même s'il va fleurir aussi cet été, mais il fleurit même à cette période. J'ai le buis aussi qui commence à fleurir en arbuste, la coronique de Valence, qui est un petit arbuste très sympathique, qui a un feuillage permanent et qui fleurit au mois de février. Donc vraiment là, j'ai les toutes premières fleurs chez moi de coronique de Valence. Mmh. Donc c'est un arbuste qui est très rustique à la sécheresse et qui attire tout un tas de pollinisateurs très très intéressants. On peut aussi évoquer le cornouiller mâle, qui est un petit arbuste un petit peu sauvage qu'on retrouve un petit peu partout en France.
Le cornouiller mâle qui fait
même des petits fruits que certains pépiniéristes ont commencé à sélectionner depuis un petit moment, qui peuvent être aussi comestibles. Voilà, donc alors le cornouiller mâle sauvage, il fait des fruits pas forcément très très bons pour nous humains, mais en tout cas pour la faune sauvage, il est aussi très très intéressant, notamment pour les oiseaux.
Je rappelle que vous avez la parole dans cette émission Prenez-en la graine pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Arnaud qui vous écoute ce matin, 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Arnaud, pour installer une haie dans son jardin, dans son terrain, est-ce qu'il y a quand même des conditions à respecter par rapport aux voisins par exemple ?
Oui, alors si vous avez un voisin et vous voulez pas forcément trop occulter la vue qu'il peut avoir, à ce moment-là, il faut respecter une certaine hauteur. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est 2 mètres ou 2 mètres 50. Mais vous pouvez quand même tout à fait installer une haie basse avec des arbustes qui dépassent pas 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et puis surtout une haie, souvent on a l'habitude de voir une seule ligne d'arbre. Et ça, c'est une haie qui sera pas hyper accueillante pour la biodiversité. Si possible, à minima, faire une haie avec au moins deux lignes, donc une haie qui aura quand même plusieurs mètres de largeur, et encore mieux si c'est possible d'avoir des bandes enherbées de chaque côté de la haie, pour essayer d'avoir tout un tas de étagé au maximum sa haie, pas forcément qu'avec des grands arbres, mais avec des arbustes, éventuellement même des lianes, hein. On peut parler aussi du chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, il a aussi une floraison très étalée sur l'année. Et donc, c'est très intéressant. Et notamment sur les bandes enherbées tout autour de la haie. On peut aussi avoir des plantes qui vont avoir une floraison très longue, comme le trèfle blanc ou les bourraches, notamment, qui sont aussi très intéressants pour les pollinisateurs en général. Parce qu'il faut savoir qu'en France, quand même, on a plus de 20 000 pollinisateurs différents, espèces de pollinisatrices différentes. C'est assez énorme. On pense souvent à l'abeille domestique. Mais en fait, l'abeille domestique, c'est un pollinisateur parmi d'autres. On a 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, hein, donc c'est énorme.
C'est énorme.
Et en fait, c'est énorme. Et en fait, c'est vraiment toute, c'est vraiment la variété, la diversité des pollinisateurs qui fait qu'on va avoir aussi un jardin en bonne santé et aussi des cultures au potager qui, bah voilà, qui vont être bien pollinisées. On va aussi lutter efficacement contre tout un tas de ravageurs, notamment avec, comme je disais tout à l'heure, avec des hivers doux, où on a des potentiels ravageurs qui vont arriver très tôt au jardin, comme les pucerons, hein, et du coup avoir un jardin accueillant, hospitalier à la biodiversité, ça va nous permettre aussi d'avoir un jardin plus résilient à ces attaques de ravageurs qu'on a de plus en plus tôt dans l'année.
Donc voilà, et vous pensez, Arnaud, que c'est le bon moment, là, en ce plein milieu du mois de février, de planter une haie, ou en tout cas d'essayer d'imaginer cette haie?
Oui, c'est pas encore trop tard pour planter des arbres, des arbustes, une haie. On a tout l'hiver, hein, on peut commencer à partir du mois de novembre, décembre, mais le mois de février, c'est tout à fait opportun. Moi-même, j'ai participé à planter une haie la semaine dernière dans une ferme, la ferme de Terre et Humanisme. On a planté 200 arbres avec des enfants de l'école locale, et donc c'est tout à fait possible. Alors idéalement, c'est bien quand même de préparer cette plantation, quelques semaines avant, quelques mois avant, pour préparer son sol. Éventuellement faire les trous un petit peu en avance. Et puis quand vous plantez une haie, on va quand même avoir besoin d'un nombre important de végétaux, d'arbustes, d'arbres ou de couvre-sol. Et en général, on prend contact avec des pépiniéristes un petit peu en amont pour préparer cette plantation. Donc là, c'est pas encore trop tard, mais vu le nombre important de plants nécessaire, c'est bien quand même d'anticiper un petit peu, mais on va dire que vous avez jusqu'au mois de mars pour implanter une haie. Si vous implantez cette haie un peu trop tardivement, ça va être assez compliqué le suivi, notamment de l'arrosage, parce que les plantes ont tendance à bien faire leurs racines, à bien s'implanter pendant l'hiver.
Oui.
Et si vous plantez votre haie un petit peu trop tard et que derrière on a un printemps sec ou un été chaud avec des canicules, à ce moment-là, va falloir être extrêmement vigilant sur l'arrosage de votre haie, des arbustes, avoir un suivi très fin pour vraiment que votre haie ne se dessèche pas, ne meure pas par manque d'arrosage. Donc plus tôt on implante une haie, mieux les racines vont s'implanter et vont être résilientes derrière aux sécheresses qu'on a de plus en plus. Donc voilà, si possible, implanter une haie le plus tôt possible, bien que ça soit quand même possible juste avant le printemps.
Et je vous propose, Vincent, d'accueillir notre première auditrice de cette émission Prenez-en de la graine, c'est Nelly, au 04 72 38 20 23. Bonjour Nelly.
Bonjour Melchior, bonjour monsieur, bonjour à toute l'équipe. Je suis d'Avignon, oui. Et j'ai un petit souci, j'ai un balcon qui est exposé avec beaucoup de vent. Alors, un vent démentiel. Hein. Et l'après-midi, il y a du soleil à partir de 2 heures jusqu'au soir, un soleil, surtout l'été, très brûlant. Alors, j'avais mis des arbres en plastique, mais ça ne me convient plus. Moi, ça m'a dépanné, mais ça ne me va pas. Je voulais savoir ce que je pourrais mettre dans des pots comme arbres. Il m'en faudrait un ou deux qui me cachent un peu du vis-à-vis. Mais c'est pas évident, hein. J'ai du mal à regarder les plantes.
Donc sur votre terrasse, hein.
Sur ma terrasse, oui.
Eh ben écoutez, merci beaucoup, Nelly.
Bonjour Nelly. Ouais. Effectivement, c'est sur un balcon orienté sud, en plus avec beaucoup de vent. Si vous êtes à Avignon, c'est sûrement le Mistral que vous avez là-bas. Donc un vent en plus très séchant, rafaleux.
Fatigant parfois.
Fatigant, voilà, qui est énervant pour certains apparemment aussi. Et donc, c'est pas évident. Alors, sur un balcon, déjà, on va chercher déjà à avoir des pots les plus grands possibles. Parce que plus vous avez des pots petits, plus vite ils vont monter en température, plus vite ils vont se dessécher. Donc, essayez d'avoir des grands pots, donc avec le plus de substrat de terre possible. Donc parfois ce n'est pas évident, hein, faut pas non plus trop surcharger son balcon, et on va essayer d'isoler ces pots du soleil en mettant des caches soleil, éventuellement du carton qui peut isoler. Donc bien sûr il faut quand même essayer que ça reste esthétique, mais essayer d'isoler au maximum des surchauffes de l'été. Et puis avoir un substrat, donc pas hésiter à mélanger de la terre avec du terreau, parce que le terreau garde extrêmement bien l'eau. Donc on va essayer d'avoir des substrats qui se dessèchent le moins possible. Et après au niveau des arbustes, faire un petit peu d'occultation. Moi je vous conseillerais plutôt des plantes aromatiques qui sont très résistantes au sec et qui peuvent quand même bien pousser, comme vous avez le romarin, hein, qui peut quand même monter à 1,50 m, qui a un feuillage persistant, donc qui peut qui peut occulter à l'année. En plus, voilà, ça fait une, c'est assez sympa comme arbuste. Il y a une floraison, voilà, c'est une belle odeur.
Le romarin. Donc
le romarin, ça peut être une bonne idée. Ou tout à l'heure, je parlais de la coronille de Valence aussi, oui, qui est un arbuste très rustique, assez résistant à la sécheresse, qui a aussi un feuillage permanent, qui fait une floraison jaune au mois de février-mars. Donc la coronille de Valence, ça peut être aussi une bonne piste.
Voilà, Nelly, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, écoutez, je vais me rendre dans une jardinerie et puis voir un petit peu, pourquoi pas, parce que c'est très difficile. J'ai beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal.
Mais vous allez y arriver, je suis sûr, avec les bons conseils d'Arnaud.
Mais il faut toujours garder espoir.
Ah ben, il faut persévérer.
Je vous souhaite un bon carême à tous.
C'est très gentil, merci beaucoup Nelly, voilà, pour votre appel dans Prenez-en de la graine ce matin au 04 72 38 20 23. Arnaud, je vous propose d'écouter un peu de musique, il est 10h15. J'annonce qu'on aura des cadeaux à vous offrir à 10h30, j'en dis pas plus pour le moment. Mais alors, vous avez le choix, mon cher Arnaud, entre une chanson de Mika, un duo entre Gaëtan Roussel et Louane et Olivia Ruiz.
Alors Melchior, je vais choisir Mika.
Eh ben, c'est parti avec une chanson hommage à Jeanne Birkin qu'on écoute tout de suite, et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23.
Je suis parfois beaucoup trop grand, parfois beaucoup trop petit. Je vis souvent m'effaçant, peu importe où je suis.
Jeanne Birkin, chanson hommage par Mika. Alors, ça vous plaît? Vous allez mettre ça dans votre playlist, Arnaud?
Bah c'est très sympa, effectivement. Et, ça, c'est enjoué.
Et on reconnaît quand même le style de Mika, hein, avec ce nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines. Allez, on continue cette émission de jardinage.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Eh bah oui, on salue d'ailleurs les auditeurs de Radio Notre-Dame en Ile-de-France et à Paris qui nous écoutent dans cette émission. Et puis également les auditeurs de Radio Fidélité à Nantes. Bienvenue à tous et n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes avec Arnaud Vance, jardinier et formateur en agroécologie à terre et humanisme. Et on accueille tout de suite Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous. Donc, je vous appelle du Berry, où moi j'ai la chance d'avoir un petit balcon de 2,5 hectares. C'est la chance d'avoir du terrain dans nos campagnes. Et je suis très attaché aux haies berrichonnes et j'ai commencé, quand j'ai restauré ma maison, de replanter 200-300 mètres de haies avec de la charmille, du noisetier, de l'hibiscus, du houx, du buis, du saule, de l'épine noire, etc.
Ah oui.
Et j'ai planté aussi plus de 80 arbres fruitiers, des pommiers sauvages aussi pour greffer prochainement. Donc voilà, je suis très très intéressé par ça, mais j'aimerais aussi partager quelque chose sur le fait de tailler et de couper les haies vieillissantes pour les laisser se régénérer. Derrière et dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui, pensant préserver leur haie, la laissent entre guillemets mourir et qui serait quand même assez judicieux de les retailler.
Merci beaucoup Sébastien pour votre appel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Arnaud ?
Merci Sébastien, mais effectivement une haie ça s'entretient. Hein. Alors plus vous aurez une haie entre guillemets un peu large, plus elle va s'auto-entretenir. Voilà, les arbres vont avoir des symbioses un petit peu entre eux. Et là en l'occurrence Sébastien, vous avez fait une haie à la fois hospitalière, voilà, pour la biodiversité, à la fois une haie nourricière, donc voilà, qui a beaucoup d'objectifs différents, qui peut être aussi intéressante pour l'érosion, etc., pour aussi couper le vent. Hein. Ça va être aussi bénéfique pour les cultures à côté. Donc il y a Quand on crée une haie, hein, y a tout un tas d'objectifs derrière qui sont très très intéressants. Et effectivement, une haie s'entretient. Bah, vous parliez du noisetier, par exemple. Mmh. Un noisetier, effectivement, en fait, c'est un arbre buissonnant. Et souvent, les vieilles tiges finissent par mourir ou à dépérir. Et ça peut être très intéressant de le recéper une fois tous les... c'est pas tous les ans, bien sûr. Hein, ça peut être tous les 20, 25 ans. Donc, on va couper à la base toutes les vieilles branches. Et après, voilà, on aura des nouvelles tiges. Donc, des nouvelles tiges jeunes, hein, qui vont repartir. Donc, en fait, entretenir une haie, en fait, c'est aussi la rajeunir. Et donc, la rajeunir, forcément, ça va la faire durer plus longtemps. Donc, bien tailler sa haie, c'est également très important. Et souvent, dans les vieilles haies, on a potentiellement qu'on appelle des trognes. Donc, les trognes, c'est des anciens, une manière de conduire un arbre. Donc, souvent, on appelle ça aussi en tête de chat, trogne, émonde. Donc, en fait, c'est une manière de tailler des arbres pour récolter du bois, donc sans les tuer. Souvent, dans les villes, maintenant, on a les mûriers platanes qui sont en tête de chat, en trogne. Et donc, une trogne, pareil, ça s'entretient sur des... On a des cycles de taille tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Ça va dépendre un petit peu du type de trogne qu'on a. Et des trognes, on en connaît tous et toutes, hein. Notamment l'osier, hein, l'osier qui est en fait un bois qu'on va récolter sur le sol tous les ans pour faire des paniers en osier, bien sûr, ou même la vigne. On peut parler de la vigne qui est une liane qu'on peut aussi implanter, d'ailleurs, là, une vigne dans les haies, hein, ou des plantes grimpantes dans le haie. Ça marche tout aussi bien. Et la vigne pour faire le vin, en fait, c'est aussi une trogne. En fait, la vigne, on la taille tous les ans pour l'entretenir. Et donc, si vous arrêtez de tailler votre vigne, eh bien, en fait, elle va dépérir. Donc, effectivement, retailler de temps en temps des arbres, des arbustes, ça les rajeunit. Donc, faut faire ça bien parce que dès qu'on taille un arbre, eh bien, ça implique une plaie. Hein. Donc, il faut tailler.
Ça demande de l'entretien. Ouais.
Ça demande de l'entretien, voilà. Mais voilà, et faut faire idéalement le faire le mieux possible parce que voilà, tailler un arbre, c'est jamais anodin pour lui. Ça va lui demander de l'énergie pour refermer sa plaie. Ça peut être aussi potentiellement des entrées pour les maladies, certains pathogènes. Si on taille par temps de pluie, par temps humide, ou s'il y a une grosse gelée juste derrière une taille, ça peut endommager l'arbre. Donc voilà, faut faire attention à tout ça.
Voilà Sébastien,
merci.
Et merci à vous,
bonne journée.
C'est gentil.
Je tiens à rajouter aussi que sur des chênes, j'ai dans ces haies environnantes, des chênes qui ont plusieurs centaines d'années. Mmh. Et c'est vrai que je les ai tous retaillés, alors en cèpe descendante, pour leur redonner une forme et une vie. Et c'est vrai que c'est des chênes qui étaient en train de mourir et qui aujourd'hui revivent. Donc
Vous les avez rajeunis, bah bravo.
Eh ben bravo Sébastien, mais merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Vous avez un chêne vous Arnaud?
Oui, j'ai dans mon coin, donc c'est des chênes pubescents qu'on a dans le nord du Gard. Oui, les chênes sont des arbres vraiment majestueux qui ont aussi une floraison très intéressante. Donc ouais. Ça fait un peu comme des petits chatons, un peu comme les noisetiers, les fleurs de chêne. Alors c'est des fleurs qui sont invisibles, enfin entre guillemets, on les voit pas parce qu'elles sont vertes, un peu comme le feuillage. Parce que la pollinisation du chêne se fait par le vent. Du coup, les pollinisateurs ont pas du tout besoin de voir les fleurs du chêne, mais vraiment non, le chêne c'est un très très bel arbre et qui peut vivre des centaines, voire des milliers d'années d'ailleurs. Donc c'est très intéressant.
Allez, après Sébastien, je vous propose d'écouter Claude. Bonjour Claude.
Bonjour Claudie. Bonjour Melchior, bonjour Arnaud. Quel bonheur d'avoir entendu ce Sébastien qui est presque mon voisin puisque je suis en limite du Berry.
Ah, ben voilà. Tout le monde se connaît, c'est parfait.
Oh, alors là, j'ai pris plein de notes, hein, noisetier, vigne, etc. Alors moi, j'appelle pour un comment. Oh, ça y est, j'ai perdu. Un laurier rose.
Oui.
Un laurier rose, je l'ai acheté, il était magnifique, il y avait des fleurs, voilà 3 ans qu'il refuse de me refaire des fleurs. C'est un coquin. Alors il paraît qu'il faut le tailler.
Alors c'est un laurier rose qui est en pot ou il est en pleine terre?
Oui, un très très gros pot. Ah oui. Et alors lui mets pourtant du terreau, du marc de café quelquefois. Et puis, il me refuse. Alors, j'ai une sœur qui est dans le sud et qui me dit « Tu devrais le tailler à ras. » Et je viens d'entendre que plus on taille, meilleur c'est.
Alors, oui, alors ça va quand même dépendre. En général, quand on taille un arbre, un arbuste, on essaye quand même au maximum de limiter à un tiers de la taille. C'est-à-dire qu'on va retirer 30% maximum des branches parce qu'au-delà, ça peut avoir des conséquences un peu compliquées pour l'arbre qui risque de rejeter de manière un petit peu chaotique. Et en fait, plus on taille, plus on va potentiellement devoir tailler d'une année sur l'autre. Donc faut faire quand même attention. Là, je parlais des trognes tout à l'heure. Effectivement, les trognes, c'est des arbres qui sont habitués à être taillés, donc il n'y a aucun souci. Mais pour des arbres qu'on taille peu, faut quand même faire attention. Après, un laurier rose, c'est quand même un arbre très rustique, un arbuste, pardon, très rustique. Donc on peut le tailler sans souci, même sévèrement. Surtout s'il est en pot. C'est vrai qu'en pot, les arbustes ont un système racinaire qui va forcément est un peu bloqué, qui va pas forcément se développer au maximum. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est le rempoter tous les ans, tous les 2 ans. Rempoter une plante en pot, ça lui fait toujours énormément de bien. Donc bien sûr, en rajoutant du substrat, un mélange de terreau et de compost, donc un compost plutôt mûr, hein, bien décomposé, oui. qui a fermenté longtemps. Ça, c'est important parce que si on utilise des composts un petit peu trop jeunes, bah, à l'inverse, ça peut engendrer des brûlures sur les racines. Et puis un laurier rose, pour le coup, c'est un arbre qui a besoin d'ensoleillement, de soleil, donc faut vraiment bien l'orienter. Et donc vraiment plein sud ou en tout cas à l'est ou à l'ouest, idéalement. Et pour la floraison, c'est compliqué de savoir pourquoi, mais en tout cas, n'hésitez pas à le tailler. Moi, alors, j'éviterai quand même de le tailler de manière trop importante.
Pas trop, ouais.
Mais vous pouvez éventuellement tailler à 30-50% en essayant de, ou alors juste vous pouvez aussi, comme je disais tout à l'heure, le rajeunir. Donc laisser des belles branches qui sont bien vigoureuses, plutôt des jeunes branches, et tailler les vieilles branches qui sont en général un petit peu plus biscornues et où on voit que la vigueur est un petit peu moins grande. Voilà, essayer de le rajeunir, ça peut lui faire du bien.
Bah voilà Claudie, merci beaucoup pour votre appel et bon courage avec ce laurier rose, et merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. On va marquer une petite pause Arnaud Vance, et dans un instant on entendra Huguette et Marie-Jeanne. Vous pouvez également nous envoyer un mail à direct@rcf.fr. Je vous lirai d'ailleurs un mail de Rosène et de Jean-Luc dans un instant, et puis on aura aussi des petits cadeaux à vous offrir, donc vous ne décrochez pas, vous ne débranchez pas la radio, à tout de suite.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
et 10h30 dans Prenez-en de la graine, toujours avec Arnaud Vance, jardinier et formateur en agroécologie à Terre et Humanisme. Tout va bien, Arnaud ?
Tout va bien. J'ai eu une grippe il y a quelques semaines. J'étais un peu de mal à m'en remettre, mais ouais. Ça va.
Oui, et je crois qu'elles sont violentes hein, cette année, les grippes, les pneumopathies. Mais bon, on n'est pas là pour parler médecine, on est là pour parler jardinage avec vous au 04 72 38 20 23. Et puis, comme je le disais il y a quelques instants, on a des cadeaux à vous offrir et c'est grâce à vous, Arnaud, et grâce à toute l'équipe de Terre Humanisme.
Tout à fait. Alors on vous offre des graines, voilà, des semences reproduites chez nous dans nos jardins pédagogiques du Mat Beaulieu en Sud-Ardèche. Voilà, donc ça peut être des semences de fleurs, d'aromatiques, de plantes aromatiques et médicinales. Ça peut être des engrais verts aussi, donc des plantes qu'on implante en général en interculture pour améliorer son sol.
Oui.
Ou alors des légumes, voilà, des légumes diversifiés, des légumes d'été ou des légumes d'automne notamment.
Donc ça, voilà, des graines que vous pouvez remporter ce matin, ou alors une formation, et ça c'est vraiment un beau cadeau, une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme, qu'il faudra se déplacer en Ardèche, Arnaud.
Tout à fait, on a tout un tas de formations. D'ailleurs, notre toute première formation de l'année recommence lundi. Voilà, là, en l'occurrence, c'est une formation de formateurs pour des personnes qui ont des projets de transmission de l'agroécologie. Et autrement, voilà, on a tout un tas de formations de 1 à 3 jours. Donc là, les prochaines formations qu'on a, on a bien réussir ses plants potagers, comment bien réussir ses semis pour son jardin vivrier, son jardin nourricier. Déjà, on a aussi des formations autour du compost, bien réussir son compost, ou éventuellement aussi des plantes aromatiques et médicinales. Une formation aussi que je vais donner moi-même qui va être aussi autour de l'accueil de la biodiversité au jardin pour avoir un jardin en bonne santé et un jardin résilient. Une thématique très importante au jardin écologique ou en agroécologie, l'aspect biodiversité dans son jardin.
Et pour tenter de remporter soit l'un, soit l'autre, donc soit une formation à Terre et Humanisme, soit des graines, vous, pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Vous pouvez mettre un petit mot en même temps, direct@rcf.fr avec vos coordonnées. Et il y aura un tirage au sort. Bonne chance à tous. Continuons de vous entendre par téléphone. Huguette, bonjour.
Bonjour.
C'est à vous.
Oui, je vous parle de mon citronnier.
Oui, citronnier.
Il a bien quelques citrons, mais il n'y a aucun jus. À l'intérieur, c'est tout sec.
D'accord, des citrons tout secs. Et vous connaissez la variété de ce citronnier ?
Il y a quelques années, je l'avais mis dans un pot. Il y a au moins 5 ans qu'il est dans. Il fait beaucoup de feuilles, de fleurs, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a rien dans le citron. Quoi. Il est sec, sec, sec. L'anglaise, la rose, tout ce que je peux faire, je le fais.
Eh ben c'est assez particulier. Moi, alors si vraiment vous faites voilà tout ce qu'il faut, les agrumes ça a besoin d'une fertilité assez spécifique. Donc c'est vrai qu'en général, quand il y a peu de fructification, on amène des engrais organiques assez spécifiques, spéciales agrumes. Mais là, vraiment, si le fruit en lui-même est sec, je crois que j'ai jamais entendu parler de ça. C'est possible, ouais, que ça soit bizarre. La variété du citron hein, qui soit comme ça. Et à ce moment-là, il y a rien à faire. Hein. Ça veut dire que c'est la plante en elle-même qui produit ces fruits-là. Et voilà. Après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement voilà rempoter votre citronnier pour lui donner encore plus de place, plus d'énergie, plus de vigueur. Mais d'après ce que vous me dites, vous en preniez soin, donc
bah oui, c'est
pas
étrange,
forcément
hein.
Ça. C'est étrange. Ouais.
Vous êtes dans quelle région, Huguette ?
Le Vaucluse.
À le Vaucluse. Bon, remarquez, ça s'entend un petit peu avec votre accent. Hein. Donc, vous ne savez pas que répondre. Quoi répondre ?
Non, mais moi je dirais que c'est plutôt la variété qui engendre ça. Donc, j'aurais envie de vous conseiller d'essayer de vous rendre chez un pépiniériste spécialisé autour des agrumes et puis d'en prendre un nouveau qui soit pour le coup vraiment adapté à vos pratiques et à votre région. Mais bon, en Vaucluse, en l'occurrence, c'est un département dont les conditions climatiques sont très favorables à certains agrumes, donc il n'y a pas de problème.
Vous essayez ça, Huguette ?
C'est tout ce que je peux faire. Alors, il y a l'écorce, mais je pense aux écorces, moi.
L'écorce de quoi ?
Du citron.
L'écorce.
Ah oui, parce que vous pouvez utiliser, vous pouvez effectivement utiliser en zeste.
Voilà. Zeste, voilà.
Mais
oui,
effectivement,
je me disais,
vous
je...
n'aurez, vous, mais bon, vous n'aurez pas du jus. Ouais, voilà, bah, essayez de tester un des nouveaux agrumes. Surtout qu'il y a on a maintenant de plus en plus d'agrumes qui, bah voilà, la diversité des agrumes est plus en plus importante, notamment via des nouveaux porte-greffes qui sont très intéressants avec des résistances au froid assez importantes. Donc, il y a l'offre en pépinière maintenant sur les agrumes, c'est pas mal développé. Donc, on peut se faire plaisir de plus en plus là-dessus.
Merci Huguette et bon courage avec votre citron. Pressez-vous en jardinerie pour essayer d'aller étudier tout cela de plus près. Continuons avec Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour à toute l'équipe et merci de me prendre. Voilà, alors ma question, ce serait, on a quelques arbres fruitiers dans le jardin, mais alors on est dévoré par les vers, ce qui fait qu'on n'a que des fruits véreux. Je voudrais savoir ce qu'on pourrait faire pour s'en protéger et puis avoir des fruits sains.
Donc j'imagine, quand vous dites vous avez des vers, c'est sûrement le carpocaps.
Des vers qui rentrent dans les fruits,
oui,
vous voyez ce que
oui,
je veux
oui, oui, des vers, oui.
Donc c'est quel genre de fruitier? C'est plutôt des pommiers, des poiriers?
Des pruniers, des poiriers et des pommiers. C'est surtout les pommiers et les poiriers. Oui, non, les poiriers, je vais y arriver. Oui. Les pruniers et les pommiers qui sont le plus infectés.
Pruniers et pommiers. D'accord.
Donc c'est sûrement le carpocaps, hein, le carpocaps qui est un petit papillon plutôt de nocturne, qui ressemble un peu à une mite, hein, on peut dire ça comme ça, qui vient pondre à certaines périodes de l'année dans les pommes, et puis effectivement du coup les pommes, il y a des petits trous, il y a un ver parfois plus dans la pomme, et en général les toutes premières pommes qui tombent souvent, bah c'est les pommes véreuses, hein, l'arbre va naturellement se débarrasser de ces pommes là ou de ces fruits là, et puis ça peut faire de gros dégâts. Donc en général en agriculture biologique, le plus simple c'est d'installer des grands filets à certaines périodes de l'année, notamment au printemps. En fait le vol des carpocaps c'est vraiment à une période spécifique de l'année, et quand on arrive à couvrir ces arbres à ce moment-là, on passe à côté. Et autrement, ce qui marche très très bien, c'est la faune auxiliaire qui va pouvoir manger et limiter la pression de ces ravageurs-là, notamment les chauves-souris, certains oiseaux. Je sais que il y a beaucoup de vergers qui installent des nichoirs à chauves-souris juste à côté des arbres, et ça marche assez bien. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution 100% efficace. On peut réduire la pression énormément, oui. Mais on aura toujours un petit peu de ver. Donc l'idée c'est d'en avoir le moins possible. Et donc une autre chose à faire qui est importante, c'est dès que vous avez des pommes véreuses, hein, ou en général c'est des fruits, hein, n'importe lesquels qui tombent et vous voyez le ver, il faut pas laisser ces vers du coup au pied de l'arbre. Autrement du coup vous avez entre guillemets vous allez ces ravageurs vont finir leur cycle et la population va augmenter. Donc nous, ce qu'on fait donc dans nos jardins pédagogiques, c'est qu'on ramasse ces pommes-là et on va les mettre dans des grands seaux remplis d'eau. Et à ce moment-là, du coup, ça va noyer les vers qui ne vont pas pouvoir se multiplier. Donc on met ces pommes ou ces fruits dans des grands seaux avec de l'eau, et au bout de quelques semaines après ça part en compost, ou éventuellement on va nourrir nos poules ou notre cochon avec ça. Donc voilà, c'est essayer au maximum d'éviter la prolifération des ravageurs.
Voilà, vous essayez ça Marie-Jeanne.
Voilà, dites-moi, mais vous parliez de, j'ai cru comprendre que vous parliez qu'il y avait des herbes, je sais plus comment vous avez dit, des plantes, non, il n'y a pas des choses qu'on peut semer sous les arbres, quelque chose, pour protéger,
pour détourner
ces bestioles.
Bah là, c'est des papillons, donc...
Au jardin quand même, il faut savoir que les insectes, beaucoup de ravageurs s'orientent aux odeurs. Donc c'est pour ça que souvent les monocultures posent problème, parce que voilà, à partir du moment où le ravageur est là, il a toute la place. Et donc des choses qui marchent très bien au jardin écologique, en agroécologie, c'est d'implanter des plantes aromatiques un petit peu partout, et ça va perturber les insectes, les ravageurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à trouver les fruits. Donc notamment le romarin, le thym, la lavande. Donc implanter des plantes aromatiques au jardin, c'est assez efficace pour lutter contre ça. Donc,
merci.
Voilà.
Je vous ai coupé la parole, Arnaud. Je suis confus. Eh ben, Marie-Jeanne, à vous de jouer et bon courage. Vous nous donnerez des nouvelles hein, si l'année prochaine il y a encore ces petits vers dans vos pommes et dans vos prunes. Allez, continuons avec Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Vous êtes dans Bonjour. Le centre de la France. C'est ça?
Oui. Alors, j'ai des rhododendrons qui se portent magnifiquement parce qu'ils sont sous une toiture qui n'a pas de gouttière. Donc, ils ne sont pas arrosés avec de l'eau calcaire. Ah, ça, ils sont magnifiques. Seulement, ils ont été plantés au-dessous d'une grande fenêtre, mais qui est à 2-3 mètres de haut. Et maintenant, je ne peux plus ouvrir les persiennes. Il faut donc que je le taille. Oui. Alors, on dit toujours qu'il faut tailler d'un tiers seulement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on taille un, qu'on coupe à la racine, de la branche, un tiers en quantité? Ou est-ce que ça veut dire qu'on taille un tiers de tout l'arbuste?
Oui, oui. En fait, c'est un tiers en haut global. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait couper des branches entières, donc vraiment à la base. Et vous pouvez aussi couper à l'aisselle d'un bourgeon ou voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Après, si vous voulez du coup rabattre votre arbre parce qu'il a pris trop de hauteur, faut savoir que plus vous allez le tailler, plus il va faire des rejets importants et hauts. Donc en fait, vous allez devoir à ce moment-là le tailler très régulièrement. Donc c'est pour ça que en général, quand on commence à tailler un arbre ou un arbuste, en fait ça va impliquer des cycles de taille très réguliers. Et donc, ça va demander du travail. Donc, idéalement, moi, je dirais plutôt comme je disais tout à l'heure, le rajeunir ou l'éclaircir. Donc, plutôt couper des branches à la base. Ouais. Donc, plutôt les vieilles branches et laisser plutôt les jeunes. Et ça va permettre de rajeunir l'arbre, qu'il prenne un petit peu plus de... ça va permettre aussi au soleil de rentrer un petit peu mieux. Et ça va favoriser, au final, la pousse de l'arbre dans la durée.
Voilà pour votre rhododendron, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci et passez un très très bon week-end à l'écoute d'RCF et à l'écoute de nos autres émissions. Je vous lis un mail, je vous l'avais promis tout à l'heure, Arnaud, vous n'allez pas y échapper. C'est Jean-Luc, qu'arrive-t-il à mon Calathea? Ses feuilles jaunissent, brunissent et sous les feuilles, il y a comme une petite poudre invisible mais un peu collante. Il précise, Jean-Luc qui habite à Lyon, que le pot ne repose pas dans l'eau, dans la soucoupe, car il est surélevé par rapport à l'eau.
Alors, vous pouvez me rappeler le nom de la plante ?
Calathea. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud.
Là, le problème, c'est que je ne connais pas cette plante, donc j'aurais du mal à répondre.
Mais si je vous l'envoie en photo, est-ce que ça vous aiderait, Arnaud ?
Oui, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo. J'ai pas énormément de réseau où je suis, mais j'essaierai de la voir avant la fin de l'émission. Ouais, tout à fait.
Bah écoutez, très bien. Je vous l'envoie.
Et juste pour terminer sur le Carpocaps en agriculture biologique.
Donc le petit
le
papillon.
Le petit ver, le petit papillon qui peut faire des trous avoir les pommes véreuses ou d'autres fruits en général. Quelque chose qui est beaucoup utilisé en agriculture biologique. En fait, ça va être de faire en sorte de générer une confusion sexuelle de l'insecte qui va du coup ne pas pouvoir se reproduire. Et donc pour ça, en fait, on va asperger ces arbres fruitiers, faire une aspersion avec un mélange de miel et d'eau. Donc en fait, il faut très peu de miel. Hein, donc c'est 1 gramme de miel pour 200 litres d'eau. Donc c'est vraiment une dilution assez assez faible, mais en fait ça va suffire à perturber le cycle de reproduction de ce ravageur qui du coup ne va pas pouvoir se reproduire. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais qui est de plus en plus utilisé en arboriculture, pour les arbres fruitiers, en agriculture biologique.
Donc je vous ai envoyé une photo en tout cas pour le Calathea d'Arnaud. Donc si vous avez un peu de réseau, n'hésitez pas à aller voir sur votre smartphone, parce qu'on n'est pas dans le même studio. Tiens, je tiens à le préciser. D'ailleurs, je n'ai jamais eu un jardinier dans le studio pour cette émission. C'est triste. Un jour, il va falloir qu'on se rencontre en vrai, Arnaud. Elisabeth, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Elisabeth ? Non, il n'y avait pas Élisabeth. Ben alors, je suis confus. Je pensais qu'il y avait une Élisabeth en attente. On va écouter de la musique avec une très belle chanson. Alors, je l'ai choisie cette fois-ci, d'Olivia Ruiz. C'est un nouveau single qui annonce l'album La Réplique, qui arrive le 1er mars. Ça s'appelle Le Sel et vous allez en profiter pour nous appeler au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Quant au foot, la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle qui ment. Il ne reste que la torpeur quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Olivia Ruiz pour vous accompagner en ce vendredi matin, le sel.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et je rappelle que vous pouvez tenter de remporter des graines préparées par les équipes de Terre et Humanisme en Ardèche ou alors une formation de 1 à 3 jours pour vous initier ou vous perfectionner au jardinage. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr avec vos coordonnées. Et il y aura un tirage au sort dans quelques jours. Arnaud Vance, je vous envoie la photo de Jean-Luc à propos de ce Calathea avec des feuilles qui sont pas très belles, hein, on va se l'avouer.
Oui, j'ai bien reçu la photo. Effectivement, c'est ce putain de arbuste, c'est pas très en forme. Donc les feuilles ont un vert très pâle. Là, c'est pas très bon signe. Il y a feuilles aussi qui sont bien brunes.
Je vais mal parler, mais pour décrire aux auditeurs, il tire la gueule, hein, ce Calathea. Voilà.
Oui, effectivement, les feuilles sont complètement flétries, partent vers le bas. Voilà, on sent pas, il y a pas une très grande vigueur, malheureusement, pour cette plante qui est en pot. Hein. Et en plus, il nous parlait, Jean-Luc, d'une petite poudre blanche sous les feuilles. Alors, c'est
invisible, c'est peut-être
un champignon, quelque chose qui développe. Après, c'est c'est normal quand on a des plantes comme ça qui sont entre guillemets en mauvaise santé, avec peu de vigueur. Souvent, voilà, c'est souvent les ravageurs sentent entre guillemets ça et vont aller préférentiellement vers des plantes qui sont stressées ou voilà, en tout cas pas en forme. Parce que du coup, la plante, quand elle est une plante qui n'est pas saine, qui n'est pas en forme, aura plus de mal à se défendre par elle-même. Et du coup, forcément, les ravageurs privilégient ces plantes-là qui ne sont pas en forme. Donc, éventuellement, déjà, il pourrait. C'est peut-être aussi un surplus de fertilisation, ça peut être possible. Donc, moi, je dirais déjà de bassiner la plante plutôt avec de l'eau de pluie. Parce que l'eau du réseau, selon le territoire où on peut être très riche en sel minéraux. Et ça peut être ça qui peut faire en sorte que la plante va avoir du mal à se nourrir. Mmh. Plus on va avoir une eau salée, entre guillemets, avec des sels minéraux, plus ça va être difficile à la plante d'absorber et l'eau, etc. Donc, plutôt essayer d'avoir de l'eau de pluie, hein, notamment sur les plantes en pot. C'est important d'arroser à l'eau de pluie de temps en temps pour éviter de rajouter des sels minéraux à chaque fois qu'on va arroser. Donc on peut commencer par bassiner, donc c'est-à-dire mettre cette plante dans une grosse bassine et la bassiner avec de l'eau de pluie pendant plusieurs heures. Et donc ça va permettre de dissoudre et d'éliminer les sels si c'est ça le problème. Après pour cette petite poudre blanche sous les feuilles, alors je sais pas ce que c'est, mais on peut.
C'est visqueux, apparemment un peu collant. Ouais.
Un peu collant, mais c'est peut-être un champignon.
C'est bizarre. Ouais.
On peut peut-être essayer de faire une aspersion avec du savon noir dilué avec de l'eau sous les feuilles une fois tous les 3 jours si vraiment c'est un gros souci ou une fois toutes les semaines et puis voilà essayer de nettoyer les feuilles une à une parce que là il y a peut-être une quinzaine de feuilles donc on peut tout à fait faire ça à la main c'est pas un problème. Mmh. Et va falloir également aussi tailler toutes les tiges mortes ou en train de mourir et les feuilles brunes donc pas hésiter à tailler du coup sévèrement parce que voilà plus une plante a de feuillage malade plus ça va lui demander de l'énergie. Donc faire une taille sévère sur des plantes comme ça, ça leur fait toujours du bien, ça va entre guillemets ça va les rajeunir. Donc voilà quelques conseils pour ce Calathea.
Mmh. Et ben voilà, et bon courage Jean-Luc, un auditeur extrêmement fidèle depuis de nombreuses années que je n'ai jamais entendu sa voix. Donc Jean-Luc, n'hésitez pas un jour à venir directement à l'antenne poser vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Lyon ?
Oui, je suis à Lyon.
Et ben on vous écoute.
J'ai une recette pour une tisane de romarin qui était absolument extraordinaire.
Ah.
Et donc ça soigne toutes les infections, toutes les les rhumes, les grippes, etc. Et alors il faut mettre des feuilles de romarin dans une cuillère à thé, vous savez, ou par exemple dans une boule à thé, vous voyez. Donc on plonge ça dans une casserole d'eau froide, hein, jusqu'à ébullition. Mmh. Et puis, jusqu'à ébullition. Ensuite, hors du feu, hein, vous laissez infuser peut-être 10 minutes, toujours dans la casserole. Mmh. Ensuite, on met ça dans une tasse ou un bol, et puis à boire avant le déjeuner et le dîner. Et il faut recommencer durant plusieurs jours jusqu'à guérison complète, en fait. Hein. Et quelquefois, une journée, enfin matin et soir, ça suffit pour des personnes. Ça dépend.
Eh ben, merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir partagé à l'antenne cette recette. Alors, attention toujours quand on vous donne des conseils comme ça. Attention au risque, notamment pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Il faut plutôt éviter cette consommation de tisane de romarin. Idem pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Voilà, faites attention. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un médecin si vraiment vous êtes malade. Faites attention à vous quand même, Arnaud.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les plantes aromatiques comme le romarin, moi-même, je me suis fait quelques tisanes quand j'ai eu ma grippe. C'est assez intéressant, mais voilà. Donc, il y a des substances, donc les huiles essentielles, qui sont présentes dans toutes ces plantes. C'est assez puissant. Mais ça peut être effectivement très efficace, à la fois pour nous, la santé humaine, et puis la santé des plantes. Mais parfois, voilà, faut faire attention au dosage.
Exactement.
Et notamment pour les femmes enceintes, etc. Donc, pas hésiter à bien se renseigner ou à se faire conseiller, quand on utilise les préparations naturelles. Les préparations naturelles qui fonctionnent, on en utilise de plus en plus. Mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Donc, voilà, donc faire attention.
Donc, on fait attention. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette recette. Continuons avec Philippe. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour. J'ai une question complémentaire parce que peut-être que j'ai raté en prenant le train en route. J'ai entendu parler tout à l'heure d'un gramme de miel pour 200 litres d'eau pour asperger les arbres fruitiers contre un ver.
Oui.
Et je voulais savoir, sachant que je suis à 800 mètres d'altitude, à quel moment le faire, s'il vous plaît?
Ah oui, donc c'était pour le Carpocaps, hein, qui est un espèce de petit papillon, qui se plutôt nocturne, qui va pondre dans les pommes et dans différents fruits. Donc en fait, on le fait à l'époque plutôt au printemps en fait. Il faut essayer de se renseigner sur par rapport à son territoire. À partir de quel moment on a les vols de ces Carpocaps? En fait, on a les vols de ces Carpocaps sont limités au cours de l'année et en fait ils viennent pondre à des périodes très spécifiques. Donc là, à 800 mètres, il faudrait regarder un petit peu plus précisément. Mais en général, voilà, les arboriculteurs autour de chez vous connaissent très très bien cette problématique et ils savent à quel moment intervenir. En tout cas, c'est autour du printemps, début d'été. Mais là, comme ça, je pourrais pas vous donner une période très spécifique. N'hésitez pas à vous rapprocher, voilà, d'arboriculteurs ou de personnes vraiment juste à côté de chez vous qui connaissent très très bien cette problématique là.
D'accord, on peut pas se repérer par rapport à la floraison, par exemple. C'est pas non.
C'est plutôt au début. C'est quand même. Alors, c'est pas par rapport à la floraison. C'est plutôt par rapport au début quand les fruits commencent à se former. Parce que du coup, le Carpocaps lui vient pondre dans le fruit à partir du moment où le fruit est déjà formé. Donc voilà. Donc c'est bien après la floraison dans tous les cas.
C'est lui qui attaque mes cerises, par exemple, probablement.
Alors sur les cerises, je pense que c'est un autre type. Je pense pas que. Alors j'ai un doute là. J'ai un doute, mais sur les cerises, je crois que c'est un autre type de ravageur. C'est pas le Carpocaps, mais là comme ça, je saurais plus dire son nom exact. Désolé.
D'accord. Je cherche. Vous...
Eh ben, merci à vous, Philippe, surtout pour votre appel avec des questions vraiment très très pertinentes ce matin dans Prenez-en de la graine. Merci beaucoup. Et si on allait finir cette émission avec Laurence? Bah oui, Laurence, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Elker, mais bonjour à votre jardinier. Voilà, j'appelle pour des tuyas qui ont été plantées il y a une vingtaine d'années. Mon papa s'en occupait, aujourd'hui il est décédé, et le jardinier qui reprend l'entretien me dit qu'ils font, je suis pas allée voir, j'allais y aller aujourd'hui, plusieurs mètres de hauteur. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est le moment pour les tailler, est-ce qu'il faut les couper? Moi je voudrais les tailler à un mètre, quoi, d'un mètre de hauteur.
Alors les tuyas, donc c'est des plantes conifères, hein, qui sont beaucoup utilisées en haies. Alors les tuyas, c'est un arbuste, hein, parce que quand on le laisse pousser naturellement, il devient extrêmement grand, hein, le tuya. Donc pour ce qui est des arbres à feuillage persistant, comme le tuya, l'olivier ou d'autres plantes, en général on taille au mois de mars. Donc c'est vraiment le mois de mars. Là actuellement les tuyas ils commencent leur floraison. En tout cas chez moi ils ont commencé leur floraison avant-hier. Donc ça fait des nuages de pollen très très denses, très jaunes. Donc en tout cas pour le tuya, la période idéale c'est autour du mois de mars, après bien quelques semaines après leur floraison.
Voilà, donc attendez un petit peu Laurence et ce sera bon pour vos tuyas. Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission Prenez-en de la graine. Merci mon cher Arnaud Vance, une fois de plus c'était un vrai plaisir de vous écouter, d'écouter vos bons conseils. Vous pouvez tenter de remporter, je le rappelle une dernière fois ce matin, des graines ou alors une formation à terre et humanisme. C'est en Ardèche et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Merci Arnaud.
Merci beaucoup Melchior, merci à tous.
À bientôt, jardinez bien, bon week-end. Merci à Vincent, à Christophe, à Louane, Faustine et Anthony qui ont permis la réalisation ce matin de Prenez-en de la graine. Je vous souhaite un très très bon week-end, jardinez bien. Et nous on se retrouve lundi de 9h à 11h pour Je pense, donc j'agis.